Bonjour, je voudrais faire une lecture avec vous dans Actes chapitre 2, versets 41 à 42. Actes 2, 41 à 42. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole, c'est-à-dire la parole que Pierre annonçait, ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Ce qui est le plus important, une fois qu'on a fait alliance avec Jésus, faisons alliance grâce au sang de Jésus, à cause du sang de Jésus. C'est une alliance qui est faite dans le sang. Ça n'est pas une alliance légère. Eh bien, le plus important, une fois qu'on a fait cette alliance avec Jésus-Christ, c'est que nous persévérions dans ce à quoi nous nous sommes engagés. Dans l'Église, dans la vraie Église de Jésus-Christ, nous sommes appelés à persévérer. Et on vient de lire qu'il y a quatre choses dans lesquelles nous devons persévérer. Premièrement, persévérer dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire, vous savez que le mot apôtre signifie envoyé. C'est comme le mot ange. Eh bien, dans l'Église primitive, les gens allaient écouter les apôtres qui les enseignaient, c'est-à-dire les envoyés de Dieu qui les enseignaient. Et ils persévéraient en cela. Et ça n'a pas changé. Aujourd'hui encore, il est nécessaire que les gens qui sont convertis, qui ont fait la paix avec Dieu, aillent régulièrement, persévèrent à écouter l'enseignement des apôtres afin de le vivre, afin de le pratiquer. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle. Et la communion fraternelle, c'est bien plus que le fait de se réunir justement pour aller écouter les apôtres, pour aller écouter les envoyés de Dieu. Aujourd'hui, Dieu a de nouveaux envoyés. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus écouter ce que Pierre ou Paul écrivaient, bien sûr, mais il y a aussi des nouveaux envoyés aujourd'hui, des prophètes vivants. Il y a aujourd'hui des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des docteurs qui sont vivants, et il faut persévérer dans l'enseignement qu'ils apportent, si toutefois il est conforme à ce qui était dit au départ, c'est-à-dire par les premiers, ceux qui ont connu le Seigneur, ou qui ont été vraiment tout au début de l'histoire de l'Église, comme l'apôtre Paul. Mais la communion fraternelle, fréquenter simplement une réunion, c'est pas persévérer dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, avoir la communion avec son frère, c'est pas simplement être assis à côté de lui pour écouter un chanteur, ou pour écouter la télé, ou pour écouter un prédicateur. Communion avec quelqu'un, c'est faire quelque chose avec lui, avoir des goûts les mêmes, avoir des idées, des buts communs. Il nous est dit que dans l'Église primitive, ils étaient un seul cœur, une seule âme, ils avaient des buts communs, ils savaient pourquoi ils étaient là et pourquoi ils faisaient les choses, et ils les faisaient ensemble, et c'était se soutenaient les uns les autres. Et c'est ça, persévérer dans la communion fraternelle. Alors maintenant, vous avez beaucoup de personnes qui n'ont plus du tout de communion fraternelle, mais alors plus du tout, parce que ils vont écouter les envoyés de Dieu sur Internet, comme là, sur Révélation Bible, puis ils se contentent de ça. Non, mes frères et sœurs, faut pas vous contenter de ça. Ça, c'est les prédications, tout ce que vous entendez là, c'est bien, mais vous avez besoin d'être avec des frères, avec des sœurs, pas seulement pour écouter, mais pour vivre. Vous avez besoin, on a besoin des frères et des sœurs. Ils me disent, oui, mais c'est difficile, il y en a qui sont pénibles. Et bien sûr, il y en a qui sont pénibles. Mais justement, parce qu'ils sont pénibles, ça fait des frottements, et quand on frotte deux métaux, eh bien, ils s'aiguisent. Et il faut que vous soyez des gens aiguisés, des gens qui soyez formés, et justement dans la communion fraternelle, ben, ça nous aide à nous former les uns les autres. Troisièmement, ils persévéraient dans la fraction du pain. Évidemment, ils prenaient aussi la coupe, le vin. C'est-à-dire qu'ils persévéraient dans le renouvellement de leur alliance contractée lors de leur baptême. Quand on est converti, on se fait baptiser par immersion. Le mot baptême signifie par immersion. Alors quand je dis baptiser par immersion, c'est un pléonasme. On se fait immerger dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, et ça, c'est un symbole de notre disparition de la terre des vivants. Les plongés dans l'eau, on peut pas vivre dans l'eau, hein, pas longtemps. Alors on disparaît de la surface de la terre, c'est comme si on était mis dans un tombeau, on est mort, mais on ressort de là pour une nouvelle vie. C'est ça l'image du baptême. Et il persévérait dans la fraction du pain. Qu'est-ce que c'est la fraction du pain? Le pain et le vin, la Sainte Cène. Eh bien, c'est notre renouvellement d'alliance. C'est-à-dire que dans notre vie, il peut y avoir des moments où c'est difficile, où on a une difficulté quelconque. Bon, ben on se recadre et on revient devant Dieu et on communie avec lui. C'est-à-dire que on prend ce pain et ce vin en souvenir de ce qu'il a fait pour nous. On se recadre. Et ça régulièrement, parce qu'on en a besoin. Alors il persévérait là-dedans. On communie aussi avec les uns et les autres qui sont avec nous. Et on peut pas prendre la Sainte Cène si on est fâché avec quelqu'un. On peut pas prendre la Sainte Cène avec cette personne. Il faut d'abord aller se réconcilier. Vous voyez, toutes ces choses, ça a son importance. C'est des symboles. Le baptême est un symbole. Le pain et le vin, ça aussi, c'est un symbole. C'est le symbole du renouvellement de notre alliance qu'on a contractée, qu'on a dit, voilà, je m'engage à vivre une vie différente avec Jésus comme maître. Avant, je faisais ce que je voulais. En fait, on faisait pas ce qu'on voulait, on était manipulé par le diable. Mais maintenant, on fait la volonté de Dieu. Maintenant, on a un autre maître, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous dit comment il faut faire, comment il faut agir. On observe son enseignement, on écoute ses envoyés pour faire sa volonté, la volonté de Dieu. Donc, et maintenant, ben, on renouvelle notre alliance. Voilà pourquoi il persévérait dans la fraction du pain. Il ne prenait pas une fois tous les 6 mois. Et puis aussi, quatrièmement, il persévérait dans les prières. Les prières, parce qu'il y a plusieurs prières. Il y a celles qu'on fait à Dieu, à notre autel personnel. Là, on peut se lâcher, on peut dire tout ce qu'on a sur le cœur, pleurer, parce que on est dans l'intimité avec Dieu. Et puis, alors, il y a aussi l'autre forme de prière, la prière en commun, la prière avec les frères et sœurs. Ça aussi, c'est quelque chose de très précieux. Si vous écoutez la prière de quelqu'un, vous pouvez écouter au plus près de son cœur, parce que là, il va pas raconter des mensonges dans sa prière. Il va dire ce qu'il a vraiment sur son cœur, au plus loin qu'il peut aller se découvrir devant vous. Et c'est bon de prier ensemble. C'est bon de prier avec des gens qu'on aime. Il y a plusieurs formes de prière aussi. Il y a la prière qui adore, la prière qui implore, celle qui loue Dieu, celle qu'on fait dans la langue de l'esprit parce qu'on ne sait plus quoi demander. Alors l'esprit pousse des soupirs au travers de nous. On parle dans des langues qu'on n'a pas apprises, des langues d'hommes, des langues d'anges, mais on loue le Seigneur, on adore, on le prie, on intercède en langue, dans la langue de l'esprit. On peut aussi intercéder en français, c'est-à-dire se tenir entre Dieu et des personnes qu'on a à cœur pour prier pour eux, pour supplier pour eux. Et puis il y a la prière d'autorité qui, quand on prend autorité au nom de Jésus sur des situations, des éléments ou des esprits qui nous tourmentent. Et puis il y a la prière en silence, la prière de contemplation, qui est quelque chose de terriblement précieux que malheureusement on a un peu oublié. Et il faut remettre ça dans votre vie véritablement, la prière dans le silence et la contemplation. Alors, toutes ces persévérances, en fait, sont le fruit de la conversion. Quand on est converti, c'est-à-dire quand on a changé de route, quand on a pris la route de Jésus, Jésus a dit « je suis la route, je suis le chemin », quand on a pris cette bonne route, alors la persévérance, ces persévérances se manifestent dans notre communion fraternelle et puis dans nos familles. Parce que quand on persévère, on est une bénédiction pour notre famille. On la fortifie, on la protège. Et puis, on donne l'occasion aux autres membres de la famille d'être sauvés. Si vous persévérez pas, par exemple, je vais vous donner quelque chose. Il arrive que des gens disent, oh, ben, moi, je vais rendre visite à ma famille dimanche. Quand vous faites ça, les gens de votre famille vont pas vous le dire, mais ils se disent, bon, c'est pas tellement important finalement d'aller au culte pour eux, puisqu'ils viennent le dimanche. Si vous leur disiez, par exemple, aux gens de vos familles ou de vos amis, « Ah non, moi, le dimanche matin, c'est sacré, je vais adorer mon Dieu. » Ah ! Ah ! Excusez-moi, je serai un peu en retard parce que le dimanche matin, je vais adorer mon Dieu. Ah ! Vous voyez, vous impressionnez votre famille en persévérant, justement, dans l'enseignement des apôtres qui est apporté à l'Église et aussi dans la communion fraternelle, le moment que vous passez avec vos frères, qui est un moment précieux, avec vos frères et sœurs, précieux dans la présence de Dieu d'une façon tout à fait spéciale lors du culte. C'est important, ça peut bénir vos familles que vous persévériez. Je crois que la plus grande difficulté pour un converti, c'est de demeurer fidèle dans ces choses. Vous savez, j'ai commencé tout de suite à témoigner, à prêcher. Ça faisait 3 jours que j'étais converti, que je priais déjà pour mon premier malade, qui était guéri miraculeusement. Et ça fait maintenant 45 ans. Et j'ai vu beaucoup de gens qui se décident tout d'un coup de devenir non persévérants. J'ai vu beaucoup. Et j'en ai vu qui sont revenus après quelques temps. Mais quand ils reviennent, ils ont du mal à rattraper ce qu'ils auraient pu apprendre, ce qu'ils auraient pu devenir s'ils ne s'étaient pas éloignés. Perte de temps, perte d'énergie, il y a un manque. La Sainte Bible, mes frères et sœurs, elle regorge de textes qui illustrent ce que c'est que la fidélité, qui illustrent ce que c'est que la persévérance. Vous en connaissez beaucoup, je suis sûr que vous seriez même capables tous de faire un exposé sur la vie de David qui a dû persévérer, la vie de Joseph, la vie de tous ces hommes, toutes ces femmes de Dieu qui ont persévéré. Mais comme vous connaissez déjà beaucoup ces textes, je voudrais vous lire un autre texte qui parle de cela. Laissez-moi vous lire un texte qui n'est pas dans la Bible. C'est pourtant un homme de Dieu, du nom de Alma, et il s'adresse à son fils qui s'appelle Shiblon, et voilà ce qu'il lui écrit. Il lui dit, « Mon fils, prête l'oreille à mes paroles, car je te dis, comme j'ai dit à Elaman, que si tu gardes les commandements de Dieu, tu prospéreras dans le pays et si tu ne gardes pas les commandements de Dieu, tu seras retranché de sa présence. Et maintenant, mon fils, j'ai l'assurance que tu seras pour moi une grande joie à cause de ta stabilité et de ta fidélité à Dieu. Car de même que tu as commencé dans ta jeunesse à regarder vers le Seigneur ton Dieu, de même j'espère que tu continueras à garder ses commandements, car béni est celui qui persévère jusqu'à la fin. Je te dis, mon fils, que tu as déjà été une grande joie pour moi à cause de ta fidélité, et de ta diligence, et de ta patience, et de ta longanimité parmi le peuple zoramite. Car je sais que tu as été dans les liens, oui, et je sais aussi que tu as été lapidé pour l'amour de la parole, et que tu as supporté tout cela avec patience, parce que le Seigneur était avec toi. Et maintenant, tu sais que le Seigneur t'a délivré. Et maintenant, mon fils Shiblon, je voudrais que tu te souviennes que dans la mesure où tu placeras ta confiance en Dieu, dans cette même mesure tu seras délivré de tes épreuves et de tes difficultés et de tes afflictions et tu seras élevé au dernier jour. Or, mon fils, je ne voudrais pas que tu penses que je connais ces choses par moi-même, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi qui me fait connaître ces choses. Car si je n'étais pas né de Dieu, je n'aurais pas connu ces choses. » Amen. Ouh ! Est-ce que vous avez remarqué la sagesse de ce discours ? Les mots utilisés. Il parle de stabilité, de fidélité, de continuité, à garder les commandements de Dieu, de diligence, de patience, de longanimité. Et ce texte aussi fait appel à notre souvenir. Souviens-toi que dans la mesure où tu placeras ta confiance en Dieu, dans cette même mesure, tu seras délivré de tes épreuves et de tes afflictions et de tes difficultés et tu seras élevé au dernier jour. Prenez une mesure. Qu'est-ce que c'est ? Un litre, par exemple. Vous prenez un litre ? Un litre de confiance en Dieu. Eh bien, vous aurez un litre de délivrance. Mesure pour mesure. De quoi tu as besoin ? Plus tu as besoin de délivrance, plus tu as besoin d'avoir des larmes essuyées, plus tu as besoin de sortir de tes difficultés, plus grande doit être la mesure de ta confiance en Dieu. C'est pas parce que des choses terribles t'arrivent que tu dois arrêter d'avoir confiance en Dieu, au contraire. Les mots employés là dans ce texte et leur signification sont porteurs de beaucoup de bonheur, mes frères et sœurs, et de bonté. Ce que Alma dit à son fils, c'est absolument biblique. Et on sait bien que notre bonheur suprême ici-bas, c'est d'achever la course en étant approuvé par Dieu. J'ai eu le grand chagrin de perdre mon papa spirituel, Raphaël, le gitan, qui m'a emmené à Jésus en 1968. Il est décédé, on l'a enterré au mois de juin. Et lors de l'enterrement, un pasteur a pris la parole et il a dit « Il a achevé la course ». Oui, il a achevé la course. Il y en a beaucoup qui arrêtent de persévérer. Lui, il n'a pas arrêté. Et pourtant, il avait fait un AVC, il avait un cancer, il était dans un état pitoyable. C'était de douleur constante. Et il a toujours gardé... La dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé en langue, on a loué le Seigneur, on priait, il était bien. Je veux dire, dans la foi, ce pasteur, il a dit, il a achevé la course, peut-être pas en courant, il l'a achevé en rampant dans sa maladie, en rampant, mais il était jusqu'au bout et il a passé la ligne dans la victoire. Il a honoré Dieu, Dieu l'honorera. Dieu le lèvera au dernier jour. Et c'est ce qui s'est passé. Il est rentré dans son nouveau corps maintenant glorifié. Il a achevé la course, il a persévéré, il n'a pas baissé les bras parce qu'il avait eu un AVC, il n'a pas baissé les bras parce qu'il avait un cancer. Il n'y a rien qui pouvait l'arrêter de continuer, même s'il fallait ramper, comme il a dit ce pasteur. Il voulait aller jusqu'au bout, fidèle, fidèle, achever la course en étant approuvé de Dieu. Regardez, ce Shiblon, il avait des épreuves, il avait des difficultés, il avait des afflictions, son père le lui dit. On sait ça parce que son père le dit. Mais il n'y a pas que lui qui a des épreuves. David, le prophète, le roi David, pardon, en a eu aussi. Tous les prophètes en ont eu. Jésus en a eu. Les apôtres en ont eu. Tous les disciples de Jésus dans tous les temps ont eu des difficultés. Et nous en avons aussi. J'en ai. Et c'est quoi le bonheur? Alors qu'on est dans l'épreuve, dans la difficulté et dans l'affliction, c'est quoi le bonheur? C'est de connaître le chemin pour en sortir. Parce que vous avez des gens qui sont sans espérance. Savez-vous que 400 paysans se sont suicidés en France ces derniers mois? Sans espérance. Dans une épreuve terrible. À cause du manque financier, du manque de possibilités, ils ont préféré mourir sans espérance. Au cœur de l'affliction, des difficultés, le bonheur, c'est de connaître le chemin de la sortie. Et c'est pas le suicide, le chemin de la sortie. Jésus a dit, je suis le chemin. Ça signifie que notre persévérance à bien faire, c'est ça, le chemin de la sortie. De continuer à bien faire. Jésus est celui qui nous a apporté le modèle, comment vit un homme réel, un vrai. Eh bien, voilà, ça c'est mon modèle, je vais faire comme lui. Dans les difficultés, je vais pas baisser les bras, je vais relever la tête, je vais m'appuyer sur mon Dieu, je me confie en lui, et je vais aller jusqu'au bout. Ce chemin qu'il a pris, je le prends, il est mon chemin, et je vais jusqu'au bout. Alors même quand nous sommes affligés, le fait de garder ses commandements, ça nous assure la victoire, parce que ça nous mène quelque part, ou en dehors de ce carcan qui semble nous étouffer. Ce savoir, c'est ça le bonheur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous ne sommes pas comme ceux qui sont sans espérance et qui cherchent le bonheur dans les pauvres consolations que peuvent donner le monde. Ça ne veut pas dire que les petites joies qu'on a dans le monde, c'est bête et que c'est inutile. Manger un bon repas avec des amis, c'est très agréable. Voir un joli spectacle, c'est très agréable. Voir un beau coucher de soleil, faire un beau, des belles vacances, tout ça, c'est le monde qui nous offre ça, mais c'est très joli aussi, ça n'est pas condamnable. Mais c'est pas notre consolation. Le fait de prier Jésus, mes frères et sœurs, c'est pas suffisant. Le fait de prendre la Sainte Cène, c'est pas suffisant. Ce qui a de la valeur, c'est de persévérer dans les commandements de Dieu. De continuer à faire ce qu'il veut que nous fassions. La prière et la Sainte Cène, ça fait partie de ces commandements, mais ils sont pas suffisants si on fait que ça. La bonne mesure, la vraie mesure, c'est la mesure d'action qui prouve ta confiance en Dieu. Les actes que tu poses qui prouvent que tu as confiance en Dieu. un peu de prière, un peu de Sainte-Cène, le litre va pas être plein, hein. Tu as besoin d'une grande délivrance, tu as besoin d'avoir beaucoup confiance en Dieu. Une grande mesure de confiance, d'actes qui montrent que tu fais confiance. Parce que dire j'ai confiance en Dieu, ça coûte rien. Par contre, poser des actes qui prouvent qu'on a confiance en Dieu, alors ça a de la valeur à ses yeux. Et puis au ventre aussi, ça vous donne un sentiment, n'est-ce pas, de satisfaction. Priez, même les incrédules prient. Prendre le pain, le vin, la Sainte-Cène. Mais les Borgiens prenez la Sainte-Cène. C'est des ordures. Ils prennent la Sainte-Cène, hein. La persévérance à faire bien. Voilà ce qui a de la valeur. Les alliances, le renouvellement des alliances, comprennent, si vous voulez, symbolisent notre engagement à persévérer, à faire bien. En cela, ces alliances, ce renouvellement d'alliances, c'est les clés du bonheur. Ils sont juste, mais c'est la clé. Jésus a dit, je suis la porte. Il faut mettre la clé dans la porte, tourner des actions, vous voyez, démontrer qu'on est décidé. Ensuite, passer cette porte et marcher sur le chemin qui se trouve derrière cette porte. Tout ça, c'est des actes. Faire le bien, c'est tout ça. Faire le bien, mettre la clé, tourner la clé, aller passer par-dessus le seuil, aller sur cette route, tout ça, ça veut dire faire de bonnes actions, aller de l'avant, ne pas rester prostré dans les difficultés, les afflictions. Non, non, tournez-vous vraiment vers Dieu avec lui. Et ce bonheur de bien faire, mes frères et sœurs, il va éclipser les difficultés apparemment insurmontables. Souvent, on est assailli par des problèmes qui nous semblent insurmontables. Mais Moïse et son peuple, dans le désert, ils ont connu ça. Jésus, notre Seigneur, par exemple, il nous a fait sortir de notre Égypte. Hein, Moïse, il a fait sortir Israël du pays d'Égypte. Et ben, Jésus, notre Seigneur, il nous a fait sortir de notre Égypte, c'est-à-dire de l'esclavage, de nos péchés, l'esclavage de nos peurs, il nous a sorti de notre Égypte pour nous amener à la paix, pour nous amener quelque part au bonheur, pour nous amener à l'espérance, une espérance durable. Et ces promesses, elles sont réelles. Mais vous, est-ce que vous êtes réels? Allez, oui, je suis réellement dans le désert, comme les Juifs avec Moïse, je suis vraiment un problème. Maintenant, les Juifs, ils sont tous morts dans le désert. Ça fait réfléchir. Il n'y en a que deux qui sont rentrés dans le pays de la promesse. Eh bien, Dieu a fait pour ceux-là ce qu'il avait promis à ceux qui persévéreraient. Et Dieu ne change pas. Aujourd'hui, son bras est encore tendu vers vous. Ses bras sont grands ouverts. Il vit pour que vous preniez son nom sur vous. Il nous tend les bras pour que nous respections ses commandements et que nous puissions nous servir les uns les autres. Dieu a institué la Sainte-Cène pour nous fixer des rendez-vous spirituels. Dieu a institué le lavage des pieds pour nous donner rendez-vous pour le pardon qu'on s'accorde mutuellement les uns les autres. Il a aussi institué la dîme et les offrandes. La dîme et les offrandes, ce sont les critères pour contracter des alliances, mes frères et sœurs. La dîme et les offrandes sont comme la mesure de notre stabilité, de notre fidélité. Je vous rappelle une petite anecdote en passant. Quand on a créé la communauté au début, alors on avait des garçons et des filles qui venaient de la rue, qui connaissaient rien à Dieu du tout. Et il y en a plusieurs qui m'ont demandé, mais Michel, comment il faut faire avec la dîme? Est-ce qu'on donne la dîme de notre revenu, ou est-ce qu'on doit donner la dîme une fois qu'on a payé notre loyer, notre gaz, notre électricité, nos impôts? Je dis, faites comme vous voulez. Employez votre mesure. Vous serez béni par rapport à la mesure que vous employez. C'est toujours comme ça avec Dieu. C'est la même chose avec le pardon. Tu seras pardonné dans la mesure où tu pardonnes. Choisis comment tu veux être pardonné. Choisis comment tu veux être béni. Choisis. C'est le seul passage dans la Bible où Dieu dit « Mettez-moi à l'épreuve », c'est au sujet de la dîme. Donne à la maison de l'Éternel, apporte tes dîmes et tes offrandes, et tu verras si je ne répands pas sur toi la bénédiction en abondance. Voilà, mets-moi à l'épreuve, tu verras. C'est ça, c'est voilà ce que Dieu dit dans Malachie. Oui, mais ça c'était pour autrefois, gna 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 gna. Utilise la mesure que tu veux, mon frère, ma soeur. Utilise la mesure que tu veux, mais viens pas pleurnicher après. Ne viens pas accuser Dieu. Oui, s'il y avait un Dieu, il y aurait bien... Arrête avec ça, s'il te plaît. C'est la dîme et les offrandes, c'est comme la mesure de notre stabilité, de notre fidélité. C'est aussi un symbole. Et avec ces commandements, Dieu nous donne une promesse de bénédiction. Il nous donne des assurances si belles qu'elles compensent largement nos difficultés. Et en plus, par nos actes à bien faire, on renforce notre foi. Comment on peut renforcer notre foi? Je vais vous expliquer. Voilà. Vous faites un deal avec Dieu, un contrat avec Dieu, une alliance avec Dieu. Vous apportez à la maison du Seigneur vos dîmes et vos offrandes, et Dieu va répandre sur vous la bénédiction en abondance selon sa promesse. Vous allez sortir de là comment? Renforcé dans votre foi. J'aimerais bien voir la foi que vous avez, frère Janton. Eh ben, fais ce que je fais. Obéis à Jésus, tout simplement. Oh oui, mais la dîme. Mais il te sera donné, Jésus dit, donne et il te sera donné une mesure bien serrée, secouée et qui déborde. Tu crois ça ou tu crois pas ça? Tu crois ça? Alors vas-y, même si ta dîme c'est trois fois rien, tu vas recevoir une mesure. Bon. Ça sert à rien. Si vous avez décidé que vous n'allez pas la donner, vous la donnerez pas. C'est dommage. Faites ce que Jésus dit. Je vous en supplie, faites ce que Jésus dit. Votre foi sera renforcée parce que vous aurez fait des expériences brillantes avec votre Dieu. Toutes ces choses sont actuelles. Toutes ces choses sont pour aujourd'hui. C'est vrai que ça fait des milliers d'années que Dieu les a dit, mais il ne change pas. Sa parole est toujours vraie. C'est nous qui sommes les nouveaux dans l'histoire. Est-ce que vous vous souvenez de l'urim et du thummim? Ces mots signifient lumière et perfection. Urim, c'est lumière, thummim, c'est perfection. La lumière, parce que pourquoi la Bible nous dit « Ta parole est une lumière sur mon sentier », hein, c'est une lumière. La lumière, elle vient de la parole de Dieu. On est illuminé par la parole de Dieu, par ses promesses, par... les promesses de sa protection et toutes ces choses-là. Et puis la perfection, elle vient de l'obéissance à la parole de Dieu. Il suffit pas de connaître la parole qui promet, il faut aussi connaître la loi qui exige. Vous savez, autrefois, on venait vers le souverain sacrificateur pour consulter Dieu avec l'urim et le thummim. Alors, les gens s'imaginent, parce qu'ils savent pas exactement ce que c'est, que l'urim et le thummim, alors ils s'imaginent que c'était des pierres qui étaient sur le pectoral, qui étaient rajoutées, que on posait la question à Dieu, et si on avait l'approbation de Dieu, ces pierres se mettaient à clignoter, ou je sais pas quoi. C'est bête, enfin, c'est des légendes. Moi. Si c'était le cas, si c'était écrit, j'y croirais, mais tant que c'est pas écrit, j'y crois pas. Je prends les mots avec leur signification. Urim, égale lumière, thummim, égale perfection. Il ne suffit pas de connaître la lumière, les promesses de Dieu, les encouragements de Dieu, il faut aussi connaître le thummim, c'est-à-dire la loi qui exige. Souvenez-vous de Saül, le roi. Il voulait consulter Dieu. Il était rétrograde, il marchait pas avec Dieu, hein. Alors, il a voulu consulter Dieu en utilisant l'urim, c'est-à-dire la lumière. Ah, qu'est-ce que Dieu promet? Ah, je vais m'encourager avec les paroles de Dieu, tout ça. Mais il n'a pas voulu consulter les thummim. Eh bien, l'Éternel ne lui a rien répondu. Vous pourrez lire l'histoire dans 1 Samuel 28:6. Vous croyez que Dieu a changé? Non, Dieu n'a pas changé. Pensez-vous que Dieu vous bénira parce qu'il l'a promis? Non. Pensez-vous que Dieu va vous bénir parce qu'il vous aime? Non. Si vous pensez que Dieu va vous bénir parce qu'il l'a promis et parce qu'il vous aime, eh ben vous consultez simplement l'urim, c'est-à-dire la lumière, c'est-à-dire les promesses. Il faut aussi consulter les tumim, c'est-à-dire la perfection, les exigences de Dieu. Vous voyez ?
Est-ce que vous voyez ?
Dieu vous aime, c'est vrai. Et il vous a fait des promesses, c'est vrai. Mais ces promesses sont pour ceux qui lui obéissent. Et non seulement qui lui ont obéi, mais qui persévèrent dans l'obéissance. Que Dieu nous vienne en aide à tous. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Que Dieu nous garde. Et qu'il soit rempli de miséricorde pour ceux qui marchent pas bien. Que Dieu vous bénisse si vous êtes dans le cas de marcher un petit peu à côté. Hein? Revenez dans le chemin, revenez marcher avec Dieu et il vous comblera. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. C'est là ma prière. Pardon si je vous ai offensé avec mes paroles un peu dures, mais vous venez sur Révélation Bible, vous me connaissez, vous savez très bien que je ne viens pas vous chatouiller les oreilles, mais que je vous dis la vérité. En Afrique, ils m'appellent le prédicateur qui crache la vérité. C'est parce que je vous aime. Je veux que vous soyez des gens qui réussissiez, et non pas simplement des gens affermis dans les choses de la foi, mais qui réussissiez. Voilà, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir.